Okay, alors bonjour tout le monde, bienvenue. On est dans le cours « La mort dans la cité ». Ça me fait toujours penser à la vieille réplique dans le film, c'était pas Fourmisette, « La mort par le feu ». Le monde contemporain est-il en chute libre? Et donc on va compléter la leçon 1 puis on va faire la leçon 2 ce matin. La leçon 2 est pas mal plus courte. Et puis vous allez voir, il y a plusieurs éléments où... Francis Schaeffer revient sur des éléments qu'il couvre déjà dans son chapitre 1. Et donc, c'est ça. Vous êtes dans le cours La mort dans la cité. Je m'appelle Yannick Etier. Si vous voulez écouter les audios du cours, vous pouvez les écouter sur notre site web. Vous allez trouver ça là. Et puis, vous allez trouver aussi les notes du cours, les notes de cours en PDF. Si vous n'avez pas été ajouté à la liste d'envoi courriel, vous pouvez inscrire vos noms sur la feuille qu'il y a sur la petite table dans l'entrée. Et si déjà vous n'avez pas pris une copie des notes, vous pouvez vous prendre une copie des notes aussi ce matin sur la petite table qui est juste devant la boîte postale. On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien Père éternel, on veut te demander de venir nous bénir ensemble ce matin. On te demande, Père, de venir éclairer notre esprit, éclairer notre intelligence afin que nous comprenions, que nous saisissions bien les temps que nous vivons, Seigneur. Parce que tu es là, tu es très présent, Seigneur, tu parles à cette époque, tu parles aux gens de cette époque. De manière particulière, Seigneur, à travers ce livre du prophète Jérémie et la lettre de Paul aux Romains, on voit très bien, Seigneur, quel est ton message. On te demande de nous aider à le saisir avec une grande lucidité et avec beaucoup de foi aussi, pour qu'on puisse justement apporter ton évangile. Aux gens qui nous entourent. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on est encore en train de déposer les bases de la perspective de Dieu sur cette société-là. Pour ceux qui font le cours avec moi, mais tantôt, dans l'exposé biblique, on est dans le passage même de Romains 1, 17 à 32. Et donc, il va y avoir pas mal de répétitions pour vous ce matin. En même temps, comprendre Romains 1, 17 à 32, c'est clairement quelque chose de fondamental pour être capable de parler à notre époque. En Occident, aujourd'hui, définitivement, ce passage-là s'adresse, s'applique à notre société, comme rarement dans l'histoire de l'humanité. Puis même dans un certain sens, on est rendu même au-delà un peu de Romains 1, mais les clés sont là pour pouvoir s'adresser, comprendre notre époque, comprendre notre société. Alors, simplement pour compléter la leçon 1, les chrétiens, plutôt qu'être surpris par l'espèce de profonde confusion morale, confusion que l'être humain a de lui-même, le fait qu'il y a une perte de sens de l'être humain, comme je vais le dire tout à l'heure dans l'exposé biblique, l'être humain... désire s'inventer lui-même, se réinventer lui-même, se redéfinir. Parce que aujourd'hui, en Occident, il y a, avec toute la vision relativiste, tant sur le plan de la science, mais sur le plan moral, mais l'être humain ne croit pas souvent qu'il y a des repères sûrs pour savoir qui il est. Et donc, comme il estime que ses repères, que ce soit un créateur, que ce soit Dieu, le sens de l'existence, comme c'est lui qui doit choisir ses repères, par le fait même, il est en train de dire qu'il va pouvoir se définir, s'inventer lui-même. Oui, François. Mais la théorie de la relativité, on l'a transposée dans toute l'éthique. L'être humain en est venu à croire qu'il n'y a pas de vérité absolue, puis on a transposé ça dans toute notre compréhension de l'univers, croyant qu'il n'y a pas de règles claires, il n'y a pas de règles qui ne bougent pas, puis on transpose ça. Ça donne une espèce, puisque l'être humain se définit de plus en plus en Occident, essentiellement comme uniquement de la matière, c'est pas que les gens, les Occidentaux, croient pas qu'il y a un Dieu. C'est qu'ils disent, dans ce domaine-là, il n'y a aucune certitude possible, tout est flou, le meilleur guess, c'est de te définir par toi-même. Mais là, ils vont dire, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on est de la matière. Ça, c'est sûr. Puis donc, les seules choses qui sont certaines, c'est la science qui peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Juste ça que je veux dire, c'est qu'on a comme élargi ça dans la pensée populaire. Cette relativité-là s'est étendue sur le plan moral aussi, puisqu'on est juste de la matière. Est-ce que ça fait du sens? Mais dans la pensée populaire, les gens le voient comme ça. C'est des hypothèses, puis il n'y a rien de vérifiable. Souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui va être plus clair, ça va être les sciences appliquées. Ce qui va être plus clair, ça va être les technologies, ça va être ces choses-là. L'origine de l'univers, tout ça, rien n'est clair, c'est des hypothèses. Puis je pense que ça se transpose sur tout le plan moral. La manière que l'être humain se voit sur le plan moral aussi. Pour les chrétiens, voir ça dans notre société, c'est vrai que c'est déstabilisant, c'est vrai que ça nous attriste, mais en définitive, c'est pas acceptable comme chrétien qu'on reste à l'endroit où on est juste déstabilisé. Parce que la parole nous parle de ça, parce que les Écritures nous donnent des réponses. Si on est toujours dans un état, vous savez, lorsque un boxeur embarque dans le ring, puis, oups, il en a mangé un, il n'est pas assez pour aller au plancher, mais il a comme perdu une milliseconde de contact avec la réalité. Puis, tu es comme dans un état, en anglais, on dit stunned. Mais si on reste dans cette espèce d'état de choc-là, en permanence, devant l'espèce de dégringolade qu'on voit en Occident, particulièrement sur le plan, comme je vous dis, c'est pas juste de la moralité, hein. Il faut jamais penser uniquement, mettons, sexualité ou ces choses-là. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est dans la manière que l'être humain saisit l'univers. Est-ce qu'il y a un sens à l'univers ou non? Et donc, est-ce que moi j'ai un sens? Comment est-ce que je définis mon sens? Si on reste toujours dans cette espèce d'état-là du boxeur qui a perdu une milliseconde parce qu'il comprend plus ce qui vient de se passer, il a reçu un jab puis juste pendant un millième de seconde, il s'en souvient plus ce qui vient d'arriver. Il oublie où est-ce qu'il était. Mais des fois, les chrétiens, on reste dans cette espèce d'état-là un peu devant toute la société. Paul nous dit non, c'est quand même relativement simple à comprendre ce qui se passe avec notre société. C'est important pour nous de le saisir parce qu'après ça, on est capable d'aller vers les gens. On est capable de comprendre cette grande confusion-là, avoir compassion d'eux sans se perdre là-dedans. C'est un des grands défis pour nous. C'est qu'on va rencontrer quelqu'un, puis comme on mélange notre compassion pour sa confusion, puis là, par compassion, on dit, bien, je comprends ton point de vue, fait que dans le fond, il a peut-être raison. Dans le fond, c'est peut-être pas faux, son affaire. T'sais? Une des choses que je vais mentionner dans l'exposé ce matin, que je n'aurai pas le temps de développer beaucoup, par exemple, notre rapport avec les autres religions. Je crois que c'est vrai de dire que probablement que dans presque toutes les grandes religions, il y a des éléments qui sont vrais dans ce qui est dit là. OK? Puis la raison pour ça, elle est très, très simple. C'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est rare que l'être humain va passer sa vie, je ne sais pas s'il y a des... Je pense pas que ça existe, des êtres humains qui, par leur choix de vie, leur comportement, ce qu'ils disent, font jamais un écho de cette image de Dieu-là en nous, originelle, qui était là en Adam. C'est rare que l'être humain ressemble jamais à Dieu. Non, on a été créé à l'image de Dieu. Fait que même l'être humain profondément pécheur, brisé, même les plus méchants des hommes, ressemblent à Dieu à certains moments dans des comportements. Mais lorsque je regarde les grandes religions du monde, il y a des indices, il y a des échos de cette image de Dieu en l'homme. Il y a des échos de Dieu dans ces grandes religions-là. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que je peux aller vers toutes les religions du monde puis dire, mais dans le fond, toutes les religions du monde conduisent un peu à Dieu? Est-ce que je peux aller jusque-là? Ça, c'est tout un autre pas que je viens de faire. De reconnaître que dans toutes les grandes religions du monde, là, je dis probablement parce que je n'ai pas pris le temps de dire, est-ce que vraiment, clairement, je peux identifier dans chacune d'entre elles, OK? Des échos d'une vérité biblique, d'une... Qui est l'être humain, qui est Dieu, c'est quoi les rapports entre les êtres humains, tout ça. Une fois que j'ai détecté ces échos-là, faire le saut puis dire, dans le fond, toutes les religions du monde peuvent me conduire à Dieu, hey, ça c'est tout un pas en avant, parce que tout l'argument, c'est pas un pas en avant, là, c'est tout un saut, d'accord? Parce que tout l'argument de Paul dans Romains 1, 17 à 32, c'est que les êtres humains, ayant rejeté Dieu, se sont inventés des religions qui leur ressemblent. Donc, toutes les religions du monde qui ne te conduisent pas à Jésus-Christ pour te rendre à Dieu, c'est un éloignement de Dieu, ce n'est pas un rapprochement de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est super important. Maintenant, moi, comme chrétien, je suis là, puis je regarde toute la terre, puis là, je dis, il y a des milliards de personnes, tellement de gens qui sont dans la confusion. Puis là, je suis conscient de ça, puis là, je me dis, avec toute l'information qu'on a, oui, mais ces gens-là, ils ont-ils entendu l'Évangile? Ils ont été créés à l'image de Dieu. Quand je regarde différentes religions, je vois certains échos de la personne de Dieu qui sont là, de ce que l'être humain devrait être, tu sais. Puis je vois la grande confusion, puis j'ai compassion, puis là, je peux être tenté de faire ce saut-là parce que je comprends pas, je suis pas lucide. Je suis comme le boxeur qui est bing, puis qui a perdu le contact avec la réalité. Puis là, ma compassion... Puis ma compassion pour cette grande confusion-là, puis ces échos-là que je vois partout chez les êtres humains de bonté, de gentillesse, de charité, de pardon, de respect d'un être quelconque, je vois des échos de ça, peut m'amener, moi, à être confus comme le boxeur qui a reçu un jab, puis aller vers les gens, puis là, commencer à tenir ce discours-là qu'on trouve dans plein d'églises, d'accord? Aux États-Unis, le mouvement évangélique est beaucoup plus étendu, donc c'est plus évident aux États-Unis, mais en Europe aussi. Et là, je vais rencontrer des chrétiens qui ont une vision des autres religions qui est très, très écuménique. Mais ils ont tous perdu l'argument de Romains 1. C'est une chose pour moi de parler avec un musulman, puis lorsqu'il dit quelque chose qui est conforme avec les Écritures, de reconnaître ça. Partir de là pour aller à l'Évangile, c'est une autre chose pour moi d'acquiescer avec un musulman, parce que les musulmans, dans leur compréhension du christianisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, c'est les trois grandes religions du livre. D'accord? L'Ancien Testament, l'Injil, l'Évangile, qui n'est pas notre Nouveau Testament, c'est un évangile fictif, parce qu'ils disent que les chrétiens ont tout bousillé cette affaire-là. Fait que c'est l'Évangile qui existait au départ puis qui n'existe plus vraiment. Puis le Coran, mais c'est le livre. Fait que si je parle avec un musulman qui a un esprit ouvert, ben ce qu'il va me dire, il va me dire, dans le fond, on croit tous dans le même Dieu. C'est pas ça que Paul m'a dit. Paul m'a dit que lorsque tu t'es détourné de Dieu, lorsque tu as refusé le message de l'Évangile de Jésus-Christ, tu t'es engagé dans une voie où tu allais inventer ton Dieu. Et donc, le Dieu de l'islam, même si c'est effectivement un Dieu monothéiste. Voyez-vous, un écho de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ils ne sont pas polythéistes. Même si c'est un Dieu qui est saint, qui est juste. Ah, encore un écho de ça. Évidemment, Mahomet a inventé sa religion sur la base de ce qu'il avait compris du judaïsme et ce qu'il avait compris du christianisme. C'était un homme illettré, Mahomet. J'insulte pas le prophète de l'islam en disant ça, les musulmans eux-mêmes le disent. C'est un homme illettré. Ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est un homme de peu de culture, fait qu'il confondait beaucoup de choses, puis il a inventé cette religion-là pour rassembler les peuples arabes. Donc, il y a des échos. Mais le Dieu de l'islam, c'est pas le Dieu de la miséricorde qu'on connaît dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament. C'est pas le Dieu qui fait grâce. C'est pas le Dieu qui, au prix de son sacrifice à lui, va pardonner. Ça, pour eux, c'est une faiblesse chez Dieu. Pour eux, le Jésus des chrétiens, c'est un blasphème profond parce que ça serait le prophète le plus faible. Alors que pour eux, Jésus, qui n'est pas le vrai Jésus, le Jésus qu'ils ont imaginé, c'est le plus grand des prophètes, il est plus grand que Mahomet. C'est le Fils de Dieu, mais pas dans le sens que nous, on l'entend. Fait que voyez-vous, j'ai des échos. J'ai des échos, mais en même temps, c'est pas le même Dieu. Puis, on a besoin, comme chrétien, d'être lucide sur ça, de comprendre ces choses-là avec clarté. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on a besoin de comprendre ça pour pouvoir aller rejoindre les gens, avoir compassion. Qu'est-ce que nous dit Schaeffer? Schaeffer nous dit, bien comme Jérémie, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit pleurer. On doit pleurer sur cette profonde confusion qu'il y a parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Il y a cette dignité-là chez l'homme qui fait que Paul nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, on doit pleurer puis on doit être lucide pour pouvoir les conduire à Christ. On avait terminé, il me semble, la semaine dernière sur l'idée que Dieu est le Dieu de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Je vais lire le paragraphe au milieu de la page 4 des notes de la leçon 1. L'enseignement religieux de la Bible, contrairement à celui de la nouvelle théologie et de la pensée existentialiste, et en contraste avec la tendance générale du 20e siècle de réduire la religion à une projection purement subjective, s'insère toujours dans un contexte historique. On va mettre ça en français. C'est quelque chose de super important. Dieu est une personne qui a créé l'univers, puis qui, avec l'homme, écrit l'histoire de l'univers puis l'histoire de l'humanité. Donc, Dieu est une personne qui existe, qui intervient dans l'histoire des hommes. D'accord? La vision occidentale moderne des religions, j'avais parlé un petit peu de ça la semaine dernière, on parle souvent de département de science des religions, on va parler de phénoménologie, le phénomène religieux. Les non-croyants voient les religions comme un système de pensée, une représentation, un sens que l'être humain s'est inventé pour donner un sens à son existence. On est ici dans un grand vide, on ne sait pas pourquoi. Il va falloir se donner une cause, parce que sinon on s'en ira nulle part. Fait que les êtres humains un peu partout sur la Terre, ce serait une possibilité. Remarquez, ce serait une possibilité. Ce n'est pas la vérité. Clairement, pour moi, ce n'est pas du tout la vérité. Mais, je veux dire, ce serait une possibilité. Donc, pour eux, les êtres humains se sont inventés une espèce de divinité, des divinités, des systèmes religieux. Puis dans le fond, à travers ça, ce qu'on peut lire, c'est l'âme humaine, parce qu'à travers ça, tu vas voir les représentations de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs idéaux. Fait qu'on va étudier les différentes religions pour comprendre l'âme humaine, dans le fond. Comprendre comment fonctionne, comment pense l'être humain, parce que toutes les religions de la Terre, c'est des projections de ce qui se passe en nous. Est-ce que vous me suivez avec ça ou... Oui? Caro? Oui? Un espresso? Quelqu'un m'en reste un ici? Non? Non, mais vous... C'est super important. Je pense pas que c'est trop philosophique, mais tu sais, vous pouvez faire ça. Je vais comprendre. Je vais comprendre puis je vais m'ajuster. OK? Je vais donner d'autres illustrations au besoin. Il n'y a pas de choses trop simples non plus. Là. Et donc, ce que ça donne, c'est que les gens ne croient pas que Dieu est un être personnel qui intervient dans l'histoire. À partir du moment où je prends la Bible, puis je prends des interventions de Dieu, aussi surnaturelles soient-elles, donc on pourrait dire aussi folles, aussi peu vraisemblables soient-elles, puis je dis, ben non, ça c'est de l'allégorie. Ça c'est une allégorie. Pour de vrai, Jésus n'a pas marché sur les eaux, il voulait illustrer sa grande foi ou quelque chose, tu sais, puis bon, c'est allégorique cette affaire-là. Le problème fondamental avec ça, c'est que je suis en train d'attaquer les interventions de Dieu dans l'histoire des hommes. Puis là, je vais faire ça progressivement avec plein de morceaux dans les Écritures. Puis après ça, je vais poser la question même, par exemple. Parce qu'on peut, étudier la déportation du peuple d'Israël. Ça s'est fait en plusieurs phases, tout ça. Quand tu lis juste les Écritures, tu te dis, aïe, c'est clair comme l'eau de roche. C'est Dieu qui était souverain sur tout ça. Puis Dieu s'est servi de nations environnantes qui avaient leur agenda à elles, ces nations-là. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de servir l'agenda de Dieu. À travers ça, Dieu est en train de châtier son peuple à travers l'agenda d'un peuple qui voulait dominer l'univers, des choses comme ça. Tu peux décider aussi de dire, ben ça, c'est la projection, c'est la lecture qu'Israël a faite de ce qui s'est passé dans leur histoire pour donner un sens à tout ça. Puis tu vas juste étudier c'était quoi justement l'histoire, qu'est-ce qui se passait, c'était quoi la puissance, la force des peuples qu'il y avait là, tout ça. OK? Et, oui. Non. Quand je parle de faire de la projection, c'est que je peux dire, OK, quand je lis la Bible, il n'y a pas de projection. Ce que je comprends comme juif, admettons, j'ai vécu dans l'Ancien Testament, on avait un royaume extraordinaire. Mes parents se sont éloignés de Dieu. Mes arrière-grands-parents, mes parents, moi, ma génération. Ouh, la Syrie arrive, ils nous dominent. On est un tout petit peuple, pour de vrai, quand tu regardes la planète Terre. Déportation, tout ça. Je suis un juif qui croit dans les Écritures. Je lis tout ça, puis je dis, c'est Dieu qui nous châtie. Mais je peux faire une autre lecture. Je ne suis pas un juif qui croit, je ne suis pas un chrétien qui croit, je suis à l'extérieur de ça. Je dis, non, non, bonhomme, tu lis ça, tu vois la main de Dieu pour donner un sens au drame que tu vis. Dieu n'existe pas. Tu projettes tes angoisses, puis tu veux donner un sens à ça. Fait que tu essaies de t'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Fait que par exemple, avec l'Holocauste, Deuxième Guerre mondiale, tu es un juif, puis tu vis l'Holocauste, là. Tu veux dire, tu as deux options, hein? Tu crois que Dieu, à travers la méchanceté crasse puis la folie humaine, a décidé de permettre que tu sois frappé, ou tu arrêtes de croire en Dieu. C'est tes deux options. Et là, si tu arrêtes de croire en Dieu, ça va dire, regarde, je veux dire, si Dieu existait, on est son peuple, c'est ça toute notre histoire, c'est pas possible qu'il aurait permis qu'il se passe quelque chose comme ça. La déportation, c'est une chose. Les déportations, c'est une chose. L'Holocauste, on passe une coche en sirop, là, tu sais. Fait que, finalement, c'était un sens qu'on essayait de donner, qu'on essayait de se donner comme petit peuple, tu sais, puis Dieu n'a jamais existé. Et donc, il y a énormément de Juifs qui sont athées maintenant. Il y en a beaucoup qui le sont. Parce qu'ils se sont dit, ben non, si Dieu existait, il serait intervenu. Puis là, ils vont lire l'histoire d'Israël en disant, c'était juste un peuple qui essayait de se donner un sens pour qu'il s'est inventé un Dieu. Fait que tu me suis-tu? J'ai-tu répondu à la question? Fait que quand tu crois, tu ne vois pas ça comme une projection. Tu vois ça comme une révélation que tu reçois de Dieu qui explique ce qui se passe. Mais c'est possible pour des gens de décrocher de ça et de dire non, c'est juste un sens qu'on essayait de se donner. D'accord? Alors, le Dieu de la Bible, est-ce que c'est clair ça? Ça va? Si ce n'est pas clair, accrochez quelqu'un. Ici, à l'Église de l'Espoir, on est tous là pour vous aider à grandir dans votre foi. Vous irez voir Annie maintenant, comprend. Ça va lui faire un plaisir de tout vous expliquer ça. OK? mais c'est important parce que quand les gens viennent vous voir et ils disent, regardez, là, je vais rendre ça down to earth. Quand les gens vous disent, écoute, c'est sympathique, je comprends ta foi, c'est une béquille, tu as besoin de cette béquille-là. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire, sont en train de dire, c'est la représentation du sens de l'univers, de toi-même, de ton existence, que tu as besoin de projeter, tu as besoin de regarder ton histoire en faisant une projection qui vient par-dessus puis qui dit, ah, tu vois, là, tu as eu un accident. C'est Dieu qui a permis une épreuve dans ta vie. Parce que si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui permet une épreuve dans ta vie, la vie, tu sais, est juste vraiment nulle. Fait que tu as fait une projection sur ça, tu as réinterprété ton histoire en mettant Dieu comme ingrédient là-dedans. Fait que c'est ta béquille que tu as besoin pour trouver un sens à ta vie. Moi, j'en ai pas besoin de béquille. Ce que Schaeffer dit, c'est en voyant les choses comme ça, à un certain moment donné, ce qui se passe, c'est que l'être humain se voit juste comme de la matière. Il n'a plus aucun... Ce que eux autres appellent une béquille, moi, j'appelle ça l'absolu essentiel. C'est ton point de repère pour comprendre qui tu es. Puis lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne saisis pas, tu ne crois plus que tu es le fruit d'un créateur qui t'a créé dans un but précis, il te reste quoi? Éventuellement, il reste juste le fait que tu es de la matière. Puis tant qu'il y a juste la matière puis un système nerveux, bien, mon système nerveux, il m'accorde des plaisirs. Fait qu'on va essayer d'exploiter ça au maximum. Puis quand... ça ne marchera plus cette affaire-là, bien, on décidera qu'on peut mettre fin à notre vie si le système nerveux ne fonctionne pas assez bien pour qu'il y ait assez de plaisir dans ce beau monde. Donc, la Cour suprême du Canada a tranché cette semaine dans ce sens-là. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas compassion pour quelqu'un qui va devoir souffrir les 20 dernières années de sa vie. Ce que je dis, c'est qu'on peut arriver à cette conclusion-là, entre autres, parce qu'on se dit, de toute façon, il n'y a rien après. Si tu n'es pas capable de profiter de la vie ici, si tu n'es pas capable de profiter de la vie ici, aussi bien l'arrêter. Ça va? Hey, on est en train de faire un petit peu de philo. Je sais qu'il y en a pour qui c'est super basic, puis il y en a d'autres qui disent, boy, j'aurais aimé ça faire un cours pratique cette session-ci. Je suis conscient de ça, d'accord? Ouais. Donc, je m'en vais à la page 5. L'homme ne sait plus pourquoi il a été créé. L'homme postmoderne ne trouve pour définition de lui-même. Tu veux que je passe à un autre appel? Veux-tu que j'essaye l'autre casque? merci. On va faire un petit test. C'est mieux maintenant que pendant l'exposé biblique. Je suis à la page 5. L'homme postmoderne ne trouve pour définition de lui-même qu'un simple amas de cellules. Il ne trouve en lui-même qu'un sens animal. Et la raison pour cela est qu'il a cessé de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. La Bible révèle à l'homme qu'il est le reflet de Dieu. Et à partir du moment où tu ne crois plus du tout en Dieu, tu n'as pas de reflet où regarder. Mais ton reflet, tu vas le chercher dans la nature, tu vas le chercher dans l'univers. Puis comme on a des microscopes, mais là, ton reflet, c'est plus simplement le singe ou le lion. Ton reflet, c'est la cellule. Parce que quand je me regarde dans le reflet du microscope, ce que je comprends, c'est qu'à ma plus simple expression, je suis une atome ou quelque chose comme ça. Donc, je vais me définir comme ça. Je suis atome, à mode atome. Puis quand je meurs, j'écoutais cette semaine, la semaine dernière, justement, un philosophe qui dit, en fin de compte, puisqu'il n'y a pas de nouvelle unité à la plus infinie petitesse qui se crée, bien, dans le fond, une fois que je me décompose, peut-être que dans mon arrière-petit-fils, à travers un bout de carotte qu'il a mangé, je vais faire partie de ce qu'il compose, tu sais. Puis voici, là, je vais définir mon sens à travers ça. D'accord? C'est une vision très, très matérialiste de l'homme. Quand je dis matérialiste, ce n'est pas dans le sens qu'on consomme des biens matériels. C'est que je ne suis que de la matière. Pause. Thanks. Un, deux. Le prochain paragraphe est super important. Est-ce qu'on a couvert tout ça la semaine dernière, puis je suis en train juste de radoter? J'ai le feeling de radoter, parce que là, je suis dans Romains 1, puis dans... OK. Le prochain paragraphe est super important. Voici comment l'exprime si bien Francis Schaeffer. Il n'existe de ce fait personne pour aimer l'homme, personne pour le consoler. Puis ça, je pense que c'est une des clés super importantes pour comprendre notre société. Fondamentalement, l'être humain est triste. Okay? On vit dans une société, ici en Occident, qui est profondément hédoniste, c'est-à-dire qu'on trouve notre sens dans le plaisir. Ça se comprend avec tout ce qu'on a dit tantôt. C'est une suite logique, d'accord? C'est le plaisir qui donne un sens à mon existence. Mais l'être humain, l'âme humaine, a été créé pour aspirer à beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus, il y a beaucoup plus de noblesse en l'âme humaine que simplement le plaisir. On rêve d'une société belle et grande. Fait que d'une part, et là, quand je dis on, je ne parle pas des chrétiens, je parle de tout le monde. D'une part, je peux gober tout le message qui dit, mais regarde, au plus fort la poche, puis essaie de tirer le max de plaisir que tu peux. Puis, tu sais, là, la vision très matérialiste, dans le sens très consumériste, là. C'est tout ce que je veux, c'est avoir le prochain gros char, la prochaine grosse maison, les vacances dans le sud, je vais aller me refaire faire les yeux, les lèvres, les seins, tout le kit. Bon, puis c'est juste ça. C'est juste ça. C'est ça qui définit mon sens, jusqu'à temps qu'il n'y ait comme plus rien à mettre dans cette enveloppe-là, puis on part. OK? Donc, d'une part, il peut avoir ça, mais en même temps, il y a tout, on le voit dans la société, il y a toute cette noblesse-là d'une société qui veut une société meilleure, qui veut qu'on tire par le haut, qui veut qu'on grandisse, avec une profonde confusion. Fait qu'il y a une espèce de tristesse profonde qui est là, parce qu'on ne sait pas où trouver notre sens. On ne sait pas pour de vrai où on s'en va puis où on doit aller. Et cette tristesse-là profonde, elle est là en Occident. Ici au Québec, elle s'exprime beaucoup par le cynisme. Beaucoup, beaucoup par le cynisme. C'est pas vrai que les gens sont juste cyniques parce qu'ils disent, ben oui, on a des politiciens, mais y en a combien là-dedans qui sont tout croches, puis c'est des voleurs, puis ils sont juste là dans leur intérêt personnel. C'est beaucoup plus profond que ça. Si les gens, en se regardant dans le miroir, ils disaient, eux, c'est des crottés, mais moi, je sais que je suis noble, puis je peux faire une bonne société, je vais juste aller chercher les 8 autres dans les 400 000 de la Rive-Sud qui sont aussi bien que moi, puis on va la construire, cette société-là. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de grands rêveurs comme, comment est-ce que s'appelle la dame qui dirige Québec solidaire? Françoise David. Des grands utopistes comme ça, il en reste plus beaucoup, là. D'accord? Oui, c'est vrai, elle ne dirige pas. C'est vrai, co-porte-parole. Mais c'est une bonne co-porte-parole. Elle est vraiment intéressante. Il y a plein d'écho chez cette dame-là de la grandeur de Dieu. Ça fait aucun doute dans mon esprit. Mais il y a cette espèce de confusion-là, cette espèce de tristesse-là. Puis Schaeffer met bien le doigt sur ça. L'homme moderne a besoin d'être consolé, puis il ne sait pas où trouver sa consolation. Alors il cherche à être consolé de toutes sortes de manières. Une belle approche, c'est de voir chez l'homme moderne, c'est d'aller chercher des soifs profondes qu'il y a en lui. Il y a des soifs qui sont purement vêtements, sensuels, charnels, une soif de plaisir physique, mais juste d'avoir du bon temps. C'est assez primaire sur le plan des relations, tout ça. Mais il y a des soifs qui sont plus grandes que ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a des expositions, puis on va voir des œuvres d'art? Qu'est-ce qui fait qu'on a des moments où on a un festival à Montréal, puis on se retrouve 80 000 personnes juste à être là, puis avoir un bon moment avec la musique qui est là sur l'estrade, puis juste sentir le plaisir de savoir que je suis dans une foule, puis ben, je suis à Montréal, puis les probabilités sont assez faibles que j'ai un coup de poignard dans le dos. Puis je peux aller là avec mes enfants à 11 heures le soir, puis dans cette foule-là, à part un ou deux cabochons, il n'y a pas grand-chose qui va se passer de mal. C'est parce qu'on aspire, voyez-vous, il y a tout ça. Donc, il y a ces soifs-là qui sont dans l'homme, où on a besoin de beaucoup plus. Et on doit être conscient de ça, on doit être sensible à ça. Oui?
Oui.
Oui. Oui. Oui. C'est ça qu'on va voir tranquillement à travers le cours. Là, ce qu'on fait au début, c'est qu'on fait un état des faits, un état des lieux. On approche la victime qui est en choc post-traumatique, qui est tendue au sol, à peu près inconsciente. Puis on est juste en train d'ausculter pour voir où on s'en va avec ça. Mais ça, c'est fondamental parce que vous allez le perdre de vue quand vous parlez avec vos amis. Ce qui fait qu'on se tait et qu'on ne parle pas de l'Évangile, c'est qu'on arrête de voir ça clairement. Pour beaucoup de personnes, c'est ça. Puis là, on devient comme un peu gêné de dire, « Non, non, mais il y a un chemin, c'est Jésus. Je n'ai pas besoin d'être gêné, ils ont besoin de ce chemin-là. Mais je sais que lorsque je dis ça, je viens de dire quelque chose de super grossier. Il y a un chemin. Come on, man! » Étant en réalité, il n'y en a pas de chemin, il faut qu'on se l'invente. Comprenez-vous? Fait que ça a l'air hyper prétentieux. Mais j'ai le choix. Je m'assois avec eux, puis je pleure. Je rentre dans la confusion avec eux, ou je les aide à aller ailleurs. D'accord? Je suis vraiment pas bon, hein? Je suis encore dans ma leçon 1. Ça va être ça un petit peu l'exposé biblique tantôt. Je suis désolé, hein? Le remède s'en vient, mais on n'est pas rendu encore au remède. Au bas de la page 5, de même nos contemporains. Excusez-moi juste un petit peu avant-dernier paragraphe. Et que fait l'homme lorsqu'il se détourne de Dieu? Bien évidemment, il se tourne vers toutes sortes d'autres choses pour donner un sens à son existence. Alors, si on va dans l'histoire d'Israël, lorsque Israël a cessé de croire en Dieu, ils se sont tournés vers l'Égypte, ils se sont tournés vers Babylone, ils se sont tournés vers eux, dans un intérêt, on va dire, politique peut-être au départ. Ils se sont dit, le Dieu en qui on s'est confié, écoute, on ne le voit pas, puis l'ennemi s'en vient, la Syrie s'en vient nous attaquer, on va se tourner vers l'Égypte, on va aller voir Pharaon, peut-être qu'on va avoir du secours qui va venir de là. Mais cet élan-là politique, c'est aussi une incrédulité à l'égard de Dieu, donc j'ai besoin de croire dans d'autres dieux. Je vais me tourner vers leur Dieu. Voyez-vous, alors quand l'être humain cesse de se confier en Dieu, dans le Créateur, cesse de chercher à connaître ce Dieu-là et à l'honorer, il va se tourner vers d'autres choses. C'est ça qu'on voit aussi à notre époque. Avant-dernier paragraphe, de même nos contemporains se tournent vers l'hédonisme, la quête effrénée du plaisir. Ce qui donne un sens à ma vie, c'est le plaisir. C'est pas tout faux. C'est ça l'affaire qu'il y a, c'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Fait que c'est pas tout faux, ça. Encore là, c'est pour ça que John Piper va parler d'un hédonisme chrétien. Fait que le catéchisme de Westminster va dire le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu, virgule. D'accord? Et de trouver son plus grand plaisir en lui. Le mot secret dans la deuxième partie, là, c'est plaisir. C'est ça. Si vous lisez l'Évangile, les quatre Évangiles, c'est super clair. Jésus appelle les gens à venir à Dieu. Autant parce que Dieu est Dieu, puis regarde, c'était pas en règle avec lui, man. L'éternité va être longue en titi, là. OK? Donc, c'est comme glorifier Dieu parce que c'est Dieu. Mais il ne fait pas juste appel à ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il interpelle le besoin d'être bien, le besoin d'avoir un sens, le besoin d'être aimé, le besoin de m'accomplir. Voyez-vous? Oui, oui. Puis, c'est ça, on va en parler un petit peu tantôt dans l'exposé, mais c'est pour ça que c'est super important pour nous comme chrétiens de vraiment vivre l'Évangile au quotidien, parce que quand on ne vit pas l'Évangile au quotidien, on rentre dans une espèce de pattern où on vit la religion chrétienne au quotidien. Puis, ce qu'on reçoit, soit que tu décroches, tu sais, puis tu as une vie double, tu viens à l'église le dimanche, mais dans le fond, le reste de la semaine, Dieu n'est pas vraiment dans ton, dans ton quotidien. Ou soit que tu essaies d'avoir Dieu dans ton quotidien, mais comme tu n'es pas centré sur l'Évangile, c'est un espèce de système légaliste où tu portes tous ces fardeaux-là de réaliser en te regardant dans le miroir chaque matin que tu n'es pas sa coche. Et là, le problème, c'est que ce que tu projettes du christianisme, c'est que c'est lourd, cette patente-là. T'sais, je comprends que tu es peut-être un gars plus honnête, qui reste avec sa femme, puis tout ça, mais man, elle est poche ta vie, parce que je te regarde la face, puis elle est poche ta vie. Tu comprends-tu? Mais c'est pas ça le christianisme. C'est pas vrai. C'est pas ça que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés à la joie, au bonheur, au repos, à la paix, à travers les souffrances, les épreuves, les difficultés de la vie, malgré le fait qu'on est des pécheurs, malgré le fait que je suis un moron, puis quand je me regarde le matin, je dis, mon tableau, t'es pas sa coche, on va ouvrir la Bible. Mais quand même, j'ai le Saint-Esprit en moi, puis je suis un héritier de Dieu, puis je suis un fils de Dieu, puis waouh, ça va être une belle journée. Vous comprenez? J'ai besoin de revenir à l'Évangile constamment pour pouvoir vivre ça. Donc c'est pour ça que je dis, il y a toujours cet écho-là qui est présent dans ce besoin-là de bonheur, de s'accomplir. C'est pas quelque chose que Dieu a pas donné. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux. C'est pour ça que la définition du catéchisme de Westminster est super bonne. Le but de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre son plus grand plaisir en lui, de trouver son plus grand plaisir en lui. C'est vraiment les deux. C'est très bien défini. Dans sa perte de Dieu, l'homme exprime ses soifs, soif de beauté, de réponse, de réalité morale pour fonder ses actions et sa vision du monde. Donc, la société n'a pas perdu tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des actions sociales partout dans le monde? On s'en va pas. C'est pas vrai que tous ceux qui sont partis pour aller enrayer, admettons, l'Ebola, l'ont tout fait juste pour protéger le continent nord-américain. Comprenez? C'est pas vrai, là. Il y a du monde qui sont allés là parce qu'il y a des gens qui meurent et ils veulent aller sauver au péril de leur vie. Donc, c'est là dans l'être humain. Puis les chrétiens doivent voir ces choses-là. L'être humain, fondamentalement, a ces soifs-là en lui de beauté, de réponse. Pourquoi est-ce que j'existe? Comment est-ce qu'on construit un couple? À quoi ça sert la vie humaine? De réalité morale pour fonder ses actions, sa vision du monde. Alors, il va essayer de les trouver dans le relativisme. Il va essayer d'établir des contrats sociaux où on va essayer de construire une belle et bonne société. Des systèmes, même totalitaristes. Le communisme est une expression de ces aspirations-là de noblesse. C'est vraiment ça, le communisme, là. Je comprends que l'être humain est corrompu, mais je veux dire, si tout le monde était rempli du Saint-Esprit, là, waouh, c'est une super bonne idée, cette affaire-là. Comprenez? Je veux dire, ça ressemble pas mal à ça, ce qu'on trouve dans Actes, chapitre 4, puis tout ça, là. C'est pas une mauvaise idée pantoute. Ça manquait juste de réalisme. C'est juste ça, l'affaire. L'homme a soif d'amour, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Et encore une fois, c'est tout d'abord en recevant l'amour de Dieu que l'on apprend à aimer. L'une des dérives les plus frappantes à cet égard est l'usage de plus en plus vide de sens que l'on fait de la sexualité. Parce que l'être humain a besoin d'être aimé. Fait qu'il va chercher ces expressions-là. Puis dans le fond, c'est un petit peu ce que Jean Calvin dit. Lorsque Jean Calvin dit « L'homme pour se connaître » ne doit pas commencer en regardant lui-même. Parce qu'on est un être limité En philosophie, on va utiliser l'expression « on est un être fini ». On n'est pas un être infini. C'est pas juste qu'on est fini sans Jésus-Christ, c'est qu'on est un être fini, limité. On n'est pas un être infini. Et j'ai besoin, moi, comme être limité, être fini, de me situer dans cet infini-là. Puis mon point de repère, c'est Dieu. Fait que Calvin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « pour que l'homme se connaisse, il doit premièrement détourner les regards de lui, puis il doit regarder à Dieu. En regardant à Dieu, il va comprendre qui il est. Et là, il va pouvoir trouver un sens puis construire. » Et c'est la fin de la leçon 1. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer d'en faire deux la semaine prochaine. Il nous reste 5 minutes. Ça n'a pas vraiment d'allure que j'essaie d'introduire la prochaine leçon. On va l'ensemble dans un mot de prière. Soit dit en passant, je l'ai mentionné, hein, le livre « La mort dans la cité », c'est en français. C'est une plaquette d'à peu près 60 pages. Non, à peu près 80 pages. C'est un truc qui, si je pouvais, là, je ferais juste comme le déposer avec un microchip dans votre cerveau, que vous appreniez tout à penser comme ça. C'est une vision du monde qui est 100% biblique dont on a besoin. Fait que moi, Francis Schaeffer, là, mettez la main sur tous les livres. Il y a 5-6 livres de Schaeffer en français. Puis son épouse Edith Schaeffer écrit sur les arts. C'est absolument extraordinaire. Oui? Il peut éditer? OK. On va faire une petite recherche d'abord. Puis, si vraiment il n'y a plus d'édition du tout, on va voir si ce serait possible juste de vous le fournir en photocopie. Puis, s'il est édité, ce sera à vous d'avoir l'intégrité de l'acheter après puis de jeter vos photocopies. Mais on va faire une petite recherche là-dessus. D'accord? Oui?
Ton push sur Heureux Naufrage, là, c'est ce que tu dis là, le reflet de notre société, ce que pense notre société, là, c'est excellent.
T'as écouté Heureux Naufrage? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Fait que une. OK. Une. Pardon? Oui. Ce que Guillaume Tremblay fait à travers ça, c'est qu'il laisse les gens parler. Je crois que oui. Je crois que oui. Oui. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse les gens parler, puis il laisse les gens qui ne sont pas des chrétiens évangéliques parler. Et ils expriment ce vide-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après le cours la semaine dernière, il m'a dit, parce que j'avais cité quelqu'un dans la famille chez nous, une minute, là. J'avais cité quelqu'un dans la famille, un cousin à Esther, qui est athée, puis qui m'avait dit, écoute, mes valeurs, je les trouve dans le christianisme, c'est celle-là que je vais enseigner à mes enfants, parce qu'autrement, je n'ai pas vraiment de valeurs à leur enseigner. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après le cours et m'a dit « t'es vraiment chanceux d'avoir des gens autour de toi qui ont ce sentiment-là, cette conscience-là du vide, puis qui veulent parler de ces choses-là. » Parce qu'elle m'a dit « moi, dans mon entourage et dans un milieu de prof au secondaire, les gens ne veulent pas du tout discuter de ça. » Campus Crusade for Christ, ils ont développé une approche à l'évangélisation qui est super intéressante, qui va dans le sens de ce que je parlais tantôt avec les soifs. Okay? Alors, juste ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des images, des photos, qui représentent fondamentalement toutes sortes de soifs qu'il y a qui sont communes à la majorité des êtres humains. Soif de bonheur, d'accomplissement, d'amour, de sens, de faire du bien, de sécurité. À la limite, vous pourriez prendre un peu la pyramide de Maslow, puis ceux qui connaissaient ça, puis aller identifier ces soifs-là. Et puis, ils prennent ça, ils ont tous les cartons comme ça, puis c'est beaucoup utilisé à l'université, ça marche super bien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent aux gens, on va faire un test ensemble, tu as le droit d'en choisir 3 ici, c'est quoi les 3 images qui te représentent le plus? Et puis là, ils partent de ça, puis ils disent, vois-tu ce que tu es en train d'exprimer là? C'est des soifs profondes qu'il y a en toi. Il y a une soif de voir ces choses-là se réaliser. Et ça, ces soifs-là, c'est un écho de Dieu. C'est Dieu qui les a placés dans tous les êtres humains. Fait que ce que je disais à cette personne-là la semaine dernière, qui me disait « t'es chanceux d'avoir des gens qui veulent même avoir cette conversation-là avec toi », ce que je lui ai dit, là, c'est un exercice. Hein? On apprend. T'sais. Fait que j'ai dit « OK, il faut que tu sois attentif dans tes conversations avec tes amis » sur les soifs qu'ils vont exprimer. Leurs rêves, la majorité des rêves qu'ils expriment, que ce soit juste un rêve d'aller en vacances dans le sud, Ça parle de quoi? Ça parle de paix. Ça parle de repos. Ça parle de fuir le stress du moment présent. Ça, c'est une soif profonde dans l'être humain. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les gens qui vivent le stress à l'année, sans vivre la quiétude à travers la charge que porte la vie moderne, puis qui ont juste ces petites poches-là, ces petites pockets-là de repos, en réalité, ils souffrent toute l'année en attendant, puis là, ils repartent, tu sais, une petite bouffée d'air, vous comprenez? Mais en réalité, ce que le christianisme, ce que Dieu nous offre, c'est un repos profond à travers ça. Puis oui, il y a une place pour le sabbat, il y a une place pour des moments de repos aussi, physiques, puis tout ça. Mais je ne suis pas en train de vivre dans une souffrance perpétuelle toute l'année en attendant d'avoir ma bouffée d'oxygène. Et nous-mêmes, comme chrétiens, vous allez dire, ben là, arrête, il y en a que c'est ça que je vis toute l'année. Je comprends, mais on sait que ça ne marche pas. On sait qu'il y a plus que ça en Dieu, vous comprenez? Si on est là, puis toutes les semaines, c'est du devoir, 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 puis j'attends juste le moment où je peux aller m'écraser avec une petite bière devant mon film, puis là, plus rien, penser à rien, je le sais dans le fond de moi-même qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Je sais que je ne puise pas en Dieu le repos quotidien qu'il m'offre, même si j'ai le droit à un sabbat aussi physique. Je sais que j'ai un sabbat en Jésus-Christ qui m'est offert toute la semaine. C'est bon? On va aller dans un mot de prière. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'Épître aux Romains. Seigneur, tu existes, tu es Dieu, tu es présent, tu es une personne absolument extraordinaire, Seigneur. Et sans toi, je serais constamment dans la confusion, Seigneur. Sans sens réel à ma vie, je serais dans une quête perpétuelle. Et me connaissant, moi, Yannick Étier, avec ce côté tellement sensuel, Seigneur, écoute, l'hédonisme serait, je serais engagé à fond là-dedans, parce que tout le reste me découragerait énormément. Mais tu es intervenu, tu es venu, Seigneur, apporter de la lumière dans ma confusion, la lumière de l'Évangile, et tu m'as conduit dans le royaume de Dieu. Et je te bénis pour ça, Seigneur. Je te prie de nous faire grandir en sagesse, en intelligence pour saisir les temps où nous vivons et nous faire grandir dans notre foi pour que devant ce monde confus, Seigneur, nos pieds demeurent solidement ancrés sur l'Évangile de Jésus-Christ et qu'on puisse, Seigneur, apporter ce message d'espoir et d'amour de ta part aux gens qui nous entourent. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.